à toutes, bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour une heure de podcast en compagnie évidemment de vous, mais aussi en compagnie d'Eric, car sans Eric, ce podcast ne serait rien. Plitch, plash, c'est la fête à la grenouille, salut Eric.
Salut Brice.
Alors, ça, j'allais dire, ça... trempé.
Ouais, trempé, et en plus...
j'allais dire ça mouille, mais bon, c'est pas vrai.
J'ai la tête dans la lune, parce que la semaine dernière, je suis même planté entre la lune ascendante et descendante.
Oui, quelle souplesse. Ouais. Oui, mais en même temps, Eric, joie du direct de podcast, ouais. C'est-à-dire monter par la suite. Ouais. On n'y a vu que du feu puisque j'ai monté le podcast et
c'est
je t'ai supprimé. J'ai supprimé les erreurs.
Ouais, non, voilà. C'est merci Brice.
Je t'en prie. Moi, je l'aurais pas relevé. Hein.
Tu es presque une mère pour moi.
Oui, c'est ça, bien sûr. Merci. Bon. Je sais pas comment réagir avec ça. Enchaînons.
Ouais.
C'est compliqué là. Alors on va pas. Alors oui, on se plaint à chaque fois. Machin,
mais non, bon, mais là okay. C'est. Là, on peut même rien faire du tout quoi.
Il y a de la flotte.
La flotte terrible. Hein. Non, mais là c'est. On est vraiment un peu gorgé d'eau quoi. Hein. C'est...
Mais dans 2 mois, tu vas pas me dire qu'il y a pas de flotte, que c'est la catastrophe, etc.
Je sais pas.
Parce que,
ben,
on
voilà,
est d'accord.
C'est...
Au bout d'un là, moment, on est... voilà. Voilà. Oui.
Donc
ouais.
Nous on est des particuliers donc c'est pas grave mais les professionnels voilà. C'est un peu compliqué.
Mais c'est vrai que sur les professionnels c'est un peu compliqué pour planter. La bonne nouvelle c'est que alors je parle juste sur le plan national, hein, il y a une grande partie des nappes phréatiques qui mine de rien se reconstituent.
Oui, ouais.
Et
sauf dans le voilà dans un grand secteur pas loin de l'Espagne là c'est un peu compliqué pour les Français là du côté de Perpignan et compagnie mais.
C'est ça.
Mais
c'est
le
ça.
Reste, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai, à un tel point qu'on va prendre un retard complètement dingue pour semer. Parce que comme la nature a de l'avance, bon, voilà. De toute façon, on peut pas. On peut là, pas, j'ai vu, là, on peut. Biner, c'est même impossible hein, de faire une tranche.
C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais d'un autre côté, encore une fois, on a tous ceux qui ont la chance d'avoir des tonnes à eau,
oui.
De toute façon, des citernes, des réserves, etc. Mettez-les, de toute façon, c'est pas pour les quelques. Éventuellement, même s'ils gèlent, il n'y aura plus rien à arroser.
Oui.
Non, mais blague à part, remplissez au maximum, stockez.
Ah, c'est sûr.
Ceux
hein.
qui ont des projets de plus grande ampleur avec des citernes, stockez, parce qu'on ne sait pas quoi. La météo dans 2 mois. Mais là, en tout cas, c'est bien parce que la nature, finalement, bourgeonne et on voit les tondeuses à peu près partout. Alors là, juste un point, tiens, un édito tondeuse, si je peux me permettre. Eric, bonne ou mauvaise idée?
Le quoi?
Bah, de passer la tondeuse.
Ah, bah, j'ai compris édito, moi, j'ai compris, je tiens pour une
non,
moi, j'avais même pas parlé de ça, ça aujourd'hui, alors je me suis dit, pourquoi il me parle de l'édito tondeuse?
Bah, non, édito tondeuse. Bonne ou mauvaise chose?
Bah, là, on n'a pas le choix, hein, donc, je veux dire, si on attend trop longtemps, il y a même des tondeuses qui passeront même plus. Donc là, il faut.
Ouais, mais quand t'as les pâquerettes, ça tombe bien. On est
oui,
en week-end.
Oui, bien sûr.
Quand t'as
les pâquerettes, poussent... ça veut dire que le sol n'est pas très riche en azote. Hein,
oui. Mais ça, on peut le laisser.
Bien sûr. Bah, là, il y, y a des jardins qui sont merveilleux parce que, surtout les jardins oui, qui n'ont pas une force au niveau azote. Hein, donc l'herbe n'est pas très haute, globalement.
Oui.
Et donc, ça veut dire que toutes les plantes qui sont à col, toutes à plat, pâquerettes et compagnie. C'est
ouais,
super.
Il y a
3 jours, j'étais dans un lycée, il y avait même des orchidées, je voyais les feuilles d'orchidées qui pointaient. C'est super. Par contre, il y en a d'autres déjà, ça leur gratte sous les bras. Hein.
Ouais.
Donc là, c'est compliqué. Donc, en sachant qu'une fois qu'on a commencé à tondre, ben, on continue de tondre, hein, parce que là, on se sensibilise. Hein, ne pas oublier qu'il faut tondre en principe. Voilà, quand l'herbe, enfin le déchet d'herbe ne correspond pas plus d'un tiers de ce qui doit rester. Là, il y a l'herbe, mais il est vraiment très très haute. Hein. Donc, c'est peut-être le moment, peut-être, de se dire de ne pas tout tondre dans le jardin. C'est-à-dire que si on a un grand espace, peut-être de tondre simplement à un endroit, puis l'autre, bah, de laisser en prairie de fauche. Hein.
Pour ceux qui ont des potagers avec de la mauvaise herbe, comme on dit, ou en tout cas un couvert végétal spontané, c'est beau ça.
C'est
t'as
beau,
vu, Eric,
c'est beau, très beau.
Je fais partie de cette,
moi aussi, hein.
cette famille-là. D'ailleurs, toi aussi, pour le coup, passer un petit coup de tondeuse, c'est pas idiot, non? Parce
oui,
qu'après,
complètement.
Avec
oui, c'est
très haut.
Moi, je conseille souvent ça. C'est même si on a mis du broyat un peu grossier. Parce que on peut pas être dans la finaude là. Hein. Des fois, ça vaut le coup de passer un coup de tondeuse sur le broyat et aussi bien sûr sur l'herbe hein, pour limiter. Et surtout pas qu'il y ait une mise à fleurs très rapide qui ferait qu'il y ait un semis de plantes qu'on n'aime pas trop un peu partout quoi.
Voilà. Donc, alors l'inconvénient c'est que si on a des plantes basses et si on a des choses qui fleurissent, peut-être de les épargner. Mais là, où vous avez des grosses touffes.
Ouais.
Jouez pas trop, pas trop avec ça parce que c'est vite indomptable après.
Oui, c'est ça. Et le truc, c'est que bien sûr, hein, laisser le maximum de plantes sauvages à flot permet à la biodiversité de s'y installer. Mais parfois, au potager, si on a besoin de l'espace, on peut pas faire autrement. Je veux dire, c'est bien gentil de faire plaisir à la biodiversité sur un espace de quelques mètres carrés pour le semis, mais il faut mieux maîtriser l'ensemble, quitte à laisser les fleurs ailleurs, dans l'espace qui est plus grand. Mais là, dans le potager, il faut un peu limiter. Moi, j'ai commencé à limiter, par exemple, en mettant quelques bâches, hein, parce que je l'avoue, parce que sinon, si on marche dedans, moi, j'ai une grande parcelle de menthe. Bon, là, j'ai été quand même nettoyé un petit peu en mettant des bâches autour pour pas, et des cartons, pour pas que mon poids, parce que je suis... j'ai le poids d'un danseur étoile, Alors, je suis plus près de l'étoile que du danseur. Le truc, c'est...
Fais gaffe, Eric, parce que certaines étoiles sont constituées de gaz. Hein, donc,
Oui, mais ça aussi, des fois. et donc, le principe, c'est qu'en mettant des cartons sur le sol en plusieurs épaisseurs, vous répartissez l'effort de masse. Ça permet un peu de moins bousiller le sol ou mettre des planches. J'étais à quatre pattes là-dessus. Bon, j'étais après on prend une bonne douche parce que c'est pas parce que
les photos sur nos réseaux sociaux évidemment.
Donc c'est le principe. C'est là j'ai remis un autre endroit des cartons, un endroit où je vais plutôt planter vers le mois de mai. Donc j'ai mis des cartons et là je vais le couvrir de déchets végétaux dessus parce que j'aime pas trop le côté carton visible. Voilà. Donc ça permet de calmer l'ensemble. C'est simplement pour calmer. C'est pas pour comme ça quand on va l'enlever. Quand je vais enlever les bâches, ça permettra d'avoir une pousse un peu moins importante, un peu plus jaune, et ça sera plus facile de l'avoir au racloir. Parce que même là au racloir, tu arrives pas. C'est très compliqué.
Oui, et puis c'est très mouillé encore
très,
une fois.
Et là on fait des dégâts parce que là on tasse le sol. On tasse le sol. Alors bien sûr, ceux qui sont plutôt de ceux de faire un potager avec des sentiers, des chemins. Je rappelle, le chemin, ça fait à peu près un mètre de large. Et là, c'est le chemin principal, entre guillemets. Et les sentiers, c'est les chemins secondaires où ils font 30 cm. Des fois, le fait de tasser ça ou de retasser, c'est pas grave parce que c'est leur chemin. Moi, je suis plutôt de ceux qui n'ont pas vraiment de chemin et compagnie. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, c'est sûr que ceux qui ont un peu le bordel dans le jardin comme moi, c'est des temps qui sont pas forcément très agréables pour faciliter le jardinage. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va venir. J'invite les gens à le couvrir un peu en attendant. Alors, de toute façon, même sur les réseaux sociaux, vous avez pas mal d'exemples de jardinage biologique qui montrent que sous une bâche temporaire, c'est pas pour le mettre pendant 10 ans. Il y a quand même une forte activité avec vers de terre et compagnie, parce qu'il fait noir et compagnie, donc les vers sont en surface. Et il y a une forte activité, mais il faut que ça soit temporaire. Il ne faut pas que ça soit pendant des années et des années. Et surtout, une bâche qui ne se délite pas. C'est ça le but du jeu.
Oui, stop aux microplastiques et attention, évidemment. Et là-dedans, on va pointer aussi les bâches de serre qui partent en mille morceaux. Ouais. Et alors, ces espèces de clôtures, ces occultantes clôtures, je ne sais même pas comment c'est possible de vendre ça. Le truc, il tient 2 ans.
Ouais, et après, il y a tout par terre.
C'est juste.
Je comprends. Moi, je me suis, par exemple, sur une bâche occultante, je me suis fait avoir. J'ai cru que ça tenait.
Ça, au bout d'un moment, alors il y a évidemment ceux qui sont sensibilisés à ça et qui disent « Ok, on ne le fait pas », mais là, c'est bien une question politique où aujourd'hui, le législateur doit dire « Maintenant, ça suffit, ce genre de choses, on va arrêter parce que c'est irrécupérable derrière. »
Complètement. C'est fou que des fois, la mauvaise information, même des fois au toucher, on peut s'imaginer que c'est bien, mais on a...
C'est résistant, bien sûr.
Mais en fin de compte, moi, j'en ai une, elle est complètement nulle, c'est-à-dire qu'elle va l'utiliser une fois. Alors que je voulais l'utiliser pour comme bâche occultante, c'était juste la largeur de un petit mètre, hein, donc c'était bien, moins d'un mètre, donc c'était super, ça permettait de faire des planches comme ça. Ça marche pas du tout. On va se retrouver sur les bonnes vieilles bâches noires agricoles qu'on récupère.
C'est ça.
C'est beaucoup plus efficace, et au moins ça se délite pas.
C'est ça. Et c'est plus lourd, évidemment, c'est plus cher, mais au moins ça tient. Oui. On est d'accord. Eric, alors, après l'édito tondeuse, après l'édito autour de ces
de la mouillette.
Équipements et du terrain détrempé, mais il y a quelques idées comme ça, encore une fois. Là, ça a permis, on va se dire, alors, encore une fois, on peut planter, on va en parler dans un instant avec le tempo du jardin. Autant qu'on peut, évidemment, si on fait un trou, et ça fait juste à peu près 4 mois qu'il nous dit « faites d'abord les trous », ensuite, Là, au moins, c'est vrai que tout ce qu'on a planté pendant des fenêtres météo sèches, on va dire, et à peu près assuré de prendre.
Oui, complètement. Bon, là, le système racinaire a déjà démarré.
Voilà, donc ça c'est bien.
Ça c'est bien. Je dirais, il y a un léger tassage du sol. Parce que souvent, quand on défoisonne la terre, quand on va planter, enfin, quand on fait un trou, donc là, ça permet de retrouver. Oui. Sur les arbustes, arbrisseaux, je vous rappelle, sous arbrisseaux, on peut mettre du paillage. Sur les autres, surtout ne mettez pas de paillage en ce moment, hein, laissez profiter qu'il pleuve pour laisser le sol nu, entre guillemets, ou planter. Mais pas de paillage sur les arbres ou les arbres fruitiers, comme ça, au moins, les racines vont descendre, ils vont suivre
l'eau. Alors voilà, là, c'est très important, pas de paillage sur ce qu'on vient de planter.
C'est ça, sur les arbres, je parle bien, les grands arbres avec des troncs, on dirait un tronc. Comme ça, ça permet vraiment à la plante de pouvoir chercher la flotte, surtout, il faut en profiter quand il. Quand il pleut, comme ça, ça va suivre la flotte. C'est ça qui est super intéressant.
C'est ça.
Et après, bon, pourquoi pas, après, en cours de saison, s'il le faut. Mais n'oubliez pas que même si là, on a beaucoup de flotte, si après, on a un mai, juin, juillet qui est trop sec, il faudra même arroser ce qui a été bien arrosé au printemps. Hein.
Bien sûr. Voilà. On est d'accord.
Donc là-dessus, il ne faut pas trop se tromper. Alors, bien sûr, tous les plantes en godet qu'on ne peut pas planter en ce moment, notamment... tout ce qui va être petits fruits, framboisier, c'est un peu compliqué. Là, c'est très en feuilles dans les pots, je dirais même, c'est presque en fleurs, si ça continue comme ça. N'oubliez pas que là, il va falloir faire des jolis trous et mettre un peu plus que prévu de terreau de plantation ou du compost mélangé à la terre pour que ça soit une terre souple. Le trou, quand on va faire un trou, si le sol est gorgé d'eau, c'est en fonction du type de sol. Plus on a un sol limono-argileux, ça va être une boule de terre, des gros morceaux de terre. Et quand vous allez remettre, il suffit qu'il fasse sec, ça va faire comme si vous aviez mis des pavés au pied du framboisier. Donc, ce que vous faites un trou assez large, fer de bêche, justement, c'est suffisant parce que c'est souvent des pots de 11, 12, 13. Donc, vous mettez un fer de bêche, vous mettez bien du terreau de plantation dedans, un mélange avec un peu de terre si c'est possible. Et puis après, quitte à laisser un peu plus de terre autour, mais de remplir plus qu'il ne faut. Donc, à mon avis, il faut doubler les achats de terreau de plantation. Voilà. C'est pas parce que il y a une vente dans la boutique que je dis ça. C'est simplement pour avoir une terre assez souple. Parce que là, la terre, pour qu'elle soit souple, il faudrait la couvrir pendant un certain temps avec une bâche qui est imperméable pour pas que de l'eau coule à travers une bâche perméable qui rendrait la terre encore humide. Parce que là sur des sols qui sont limoneux, argileux, c'est impossible.
Oui, mais tu nous disais aussi, si je ne m'abuse, Eric, il y a 2-3 semaines, ta bâche, il ne faut pas la mettre au sol parce qu'avec le soleil, les giboulées, tu as quand même un effet de serre qui se fait et au final, ça ne s'évapore pas. Il faudra quand même la surélever un petit
peu. C'est ça,
mettre des cajots.
Voilà, l'idéal, ce sera de mettre des cajots. Une bâche imperméable, on est bien d'accord, pour faire sécher.
On est d'accord.
Si vous avez un endroit de votre jardin où la terre n'est pas mouillée pour une raison X ou Y, je vous invite à mettre 2-3 brouettes en mélange avec du compost ou du terreau de plantation, qui sera beaucoup mieux que la terre en place, où là, elle est trop gorgée d'eau. Donc là, c'est...
Bien.
Voilà.
Bien. On passe au tempo ?
Oui, donc le tempo, donc c'est l'inverse. Non, c'est... C'est pas comme la semaine dernière où je me suis planté, bien sûr. Donc,
les auditeurs, encore une fois, ne l'ont pas entendu parce que j'ai coupé.
Oui, mais bon, j'en suis vraiment pas fier.
C'est
du
pas
30
grave.
Au 31 mars, là, on est en pleine plantation. Donc, de plantation de tout ce qui est au potager, bien sûr. Encore l'ail, l'oignon, l'échalote, parce que je me demande quand est-ce qu'on va pouvoir le faire. Les topinambours, bien sûr, les pommes de terre dans les endroits où, où c'est un peu plus chaud. On peut planter, bien sûr, tout ce qui est le chou de tout type. Le chou plutôt précoce. Les laitues, sous abri, ça sera plutôt les laitues dans des régions un peu plus fraîches, en sachant que, attention, quand je dis sous abri, mini-tunnel, c'est dangereux parce que quand il va faire très chaud, ça brûle les salades qu'on a repiquées.
On est d'accord.
Voilà. Les pommes de terre, on pourra le faire partout une fois que le lilas sera en fleur.
En fleur. Enfin, chez nous, en Alsace, c'est quasiment en fleur.
Quasiment en fleur, donc on va dire que là, on a les 8-10 jours... pendant Pâques, à mon avis, on pourrait planter les pommes de terre, ça va pas poser problème si on arrive à faire un trou. Mm-hmm. Voilà, ça c'est le truc. Alors, bien sûr, ceux qui vont travailler plutôt sur plan déposé sur le sol et couverture de compost dessus, ça, à mon avis, c'est plus efficace. Mais bon, faut avoir quand même des grosses quantités de compost, déchets végétaux pour pouvoir faire de ce système-là. Dans les autres espaces du jardin, bien sûr, on peut encore et encore bouturer les plantes aromatiques. et planter les plantes aromatiques en godet, hein, parce qu'aujourd'hui, les commerçants vous offrent une jolie collection de plantes. Il y a des vrais rouées sur sur les plantes aromatiques. C'est la plantation des fraisiers 4 saisons ou remontants. Et puis, bien sûr, tous les petits fruits en conteneur, en sachant que là, les petits fruits en conteneur, ils sont très, 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 très fragiles parce que le framboisier, c'est quand même une plante assez solide. Oui, mais quand vous venez de l'acheter, vraiment, voilà, vous perdez une grande partie des feuilles si vous n'êtes pas très soigneux.
Donc, voilà. Prudence quand on le manipule.
C'est ça, voilà. Et à partir de 1er avril, donc c'est demain, hein, c'est rapide là. Jusqu'au 4 avril, jusqu'à la fin de la semaine, pouvez encore semer au chaud, des piments, quelques poivrons, les tomates et bien sûr les céleri raves. Hein.
Il est pas trop tard. On en a parlé la semaine dernière.
Oui, il n'est pas trop tard encore pour les tomates, hein, ça va vite. Hein. Quand on voit qu'il y a des températures 18-19 degrés, ça lève vite. Hein. Bien sûr, en pleine terre, toujours les grosses graines, les épinards, les fèves, les pois. Hein, mais les pois, ça commence à me prendre la tête parce que plus on va attendre, plus la levée va être longue.
Et plus on va se taper des grosses chaleurs qui vont les dessécher.
Donc du pois lisse, on va passer au pois ridé, hein, qui est moins sensible à la chaleur. Voilà. Peut-être qu'on me trompe complètement. Hein, ça se trouve, il fera pas beau et ça ira très très bien. Il n'y a pas de souci. Hein, mais par rapport à vos années qu'on a vues précédemment, c'est un peu compliqué.
Bien sûr.
Donc on peut semer en pleine terre, dans les zones plutôt méridionales. La partie sud, sous abri, encore quelques petites carottes. De toute façon, je ne vois pas comment on peut semer des carottes qui ne sont pas sous abri aujourd'hui parce que le sol est protégé par la pluie. Hein. Semer des carottes en ce moment, ça me semble complètement...
C'est impossible.
Voilà, je ne vois pas comment. Voilà, que ce soit du persil, comme si petite graine, du navet, c'est un peu plus gros, voilà, c'est un peu compliqué. Radis rose, on sera plutôt sous abri. Alors quand des fois, l'abri, plus il est haut, plus il est vaste, mieux c'est. Bien sûr, en pépinière, on peut mettre tout ce qui va être toutes les laitues de printemps, les choux de tout type, les poireaux. Ouais. Et bien sûr, on va pouvoir préparer aussi en pépinière et sous abri, mais là plutôt en godet, tout ce qui est courge.
Ok. Voilà. On a fait le tour.
Ouais. Alors après. Si on peut faire, si pour les gens qui aiment, qui savent le faire ou qui font faire, c'est le moment de greffer les arbres fruitiers, les arbres ornements.
Et là, rendez-vous sur notre blog ou dans notre livre, On s'aime fort, disponible dans toutes les librairies, pour avoir tous les conseils autour de la greffe, Eric. Ouais. On n'a même pas, alors on va refermer ce chapitre tempo, on n'a même pas parlé du sujet de la semaine, tellement on était... complètement, en gros tu vas ramener ta fraise.
C'est ça, exactement, le principe c'est là, on va parler des fraises, mais ce qu'on appelle les 4 saisons, qui sont plutôt ce qu'on appelle les fraisiers des bois, qu'on peut mettre chez soi.
Mais là, tu vas nous proposer de semer des fraises.
C'est ça.
Waouh. C'est dur.
Ça peut être surtout sur des variétés, je veux dire des bois, parce que celles-ci se sèment plus facilement. Quoi.
Bon, allez, on en parle évidemment à la fin de cette émission. Auparavant, on passe à vos questions et aux réponses d'Eric, envoyées sur contact@monjardinbio.com. Ça fait quoi, 3 semaines qu'il faut, 3 mois que je dis, je vais faire une adresse dédiée. Ça nous permettra de trier un petit peu plus facilement les mails. Il faut que je le fasse. Voilà, tu me rappelleras la semaine prochaine, Eric. On va commencer par Cécile, on va en Belgique, qui nous dit « Bonjour, il y a 2 ans pour la naissance de notre fils, on a planté un magnolia. J'ai pas l'impression qu'il grandit, ou alors très peu, mais il bourgeonne et il fleurit. Alors, pouvez-vous me donner une idée de croissance qu'il devrait avoir? Et est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire pour le booster un peu ?»
Bah, disons que si le gamin a 25 ans et s'il est tout petit, c'est qu'il bouge vraiment pas beaucoup.
Oui, bon, là, ça va, il a 2 ans.
Ah, pardon, excusez-moi, j'ai mal compris. Donc, il devrait quand même, en principe, faire un bon 1m50 quand même. Si...
Bon, il y a de l'herbe hein, autour. Hein.
Oui, Bon, des fois, c'est une situation sol qui est un peu pauvre, hein, c'est aussi ça. Alors, souvent, on dit, oui, mais à côté de chez moi, il y a un super magnolia qui est immense. Qui est super joli et tout, mais oui, mais il faut savoir qu'à une époque, peut-être que le sol où il a été planté était de meilleure qualité. Voilà. C'est ça le gros souci aujourd'hui. On ne peut pas des fois comparer un arbre qu'on a planté il y a une 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans avec un arbre aujourd'hui qu'on va planter. À mon avis, il n'aura jamais la même pousse. Parce que les sols ont tellement été chamboulés que moi, je le vois un peu partout. On ne peut pas comparer. C'est pas possible. Donc, l'intérêt, ça serait quand même de vérifier la qualité du sol. Voilà, refaire un, un petit trou d'un fer de bêche, quoi, pour voir quel type de sol on a, savoir si c'est plutôt un sol sableux, limoneux, argileux. Et puis, est-ce que autour le sol est vraiment poussant? S'il n'est pas assez poussant, il va falloir lui donner des engrais. Un engrais traditionnel sur la pousse, hein, c'est où mettre un peu plus de compost au pied, c'est-à-dire gratouiller un petit peu, enlever l'herbe qui est autour et puis mettre une belle quantité de compost.
Donc du miam.
Du miam. Oui, parce qu'il devrait quand même pousser, hein, s'il n'a pas poussé, si le bois est très gris, tortueux, c'est souvent un manque de vigueur, quoi.
Bon, voilà, en tout cas. Et puis, rendez-vous. Alors, il y a différentes pousses, il y a différents types de magnolia. Nous sommes d'accord, Rick.
Oui.
Magnolia très poussant et puis des magnolias un petit peu.
Bah oui, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que sur toutes les espèces, il existe des variétés un peu plus nanisantes parce qu'on recherche justement ces plantes qui ne demandent pas
trop de place, quoi, c'est ça. Ouais.
Donc là, des fois, on se fait avoir. Des fois, même, c'est l'inverse. On va prendre un rosier nain. Et en réalité, ça va être un rosier grimpant. Ça peut arriver, des erreurs d'étiquetage. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la plupart des plantes qu'on achète, on est plutôt vers une phase de plus petit volume, quoi.
Ok. Nathalie, qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, je ne sais pas quoi faire pour que les chats du voisinage ne prennent pas mes zones de semis pour litière attractive, pour l'attractive litière. J'ai essayé de tendre au-dessus des filets en plastique, de ficher verticalement en pleine terre des petits tronçons de branches, c'est vite laborieux, de poser horizontalement des branches sans feuilles, mais ils viennent gratter quand même. Que faire? Est-ce que vous avez des trucs pour que vos semis ne soient pas saccagés par les chats? Je suis enseignante en maternelle, j'avais dans un précédent mail évoqué mes soucis de futur réaménagement de la cour de récré. Et j'ai le même problème avec les chats du quartier dans le quartier de l'école. Ouais. Justement, ils trouvent que c'est une chouette litière. Il y a quelques années, j'avais mis du poivre, mais la pluie l'a vite fait disparaître. Merci d'avance pour vos réponses que j'attends avec impatience, très cordialement. Et merci encore, nous dit Nathalie. J'ai commandé le livre dès qu'il est sorti. Merci Nathalie. Alors, le poivre, ça marche?
Ouais, la boule de pétanque aussi et le bazooka. Mais voilà.
Putain, arrête, on va se prendre des coups.
Mais non. Mais
il plaisante. Il n'aime pas les chats. Eric, il n'aime pas les chats.
Non, c'est pas que j'aime pas les chats, mais j'aime pas quand il y a trop de chats. Voilà, c'est le principe de base.
Oui.
Alors pour les chats, là, quand même, là, ce qui est vraiment très efficace, c'est les pousses avec un peu de pointe, hein, Piracanta, les rosiers, qu'on met en croisillon sur le sol, comme ça, ça évite qu'ils aillent se frotter dessus, c'est tout. Hein.
Ok.
Et des fois, même ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir des grandes pousses de rosiers, même de les mettre un peu en arceau. Au-dessus des, et là, c'est quand même. Ou même de les attacher en. Il faut mettre simplement des gants et des attacher pour faire une espèce de grillage dessus, mais avec des pointes, quoi. C'est la seule solution.
Donc,
bien sûr, hein, souvent, ce qui se passe, c'est que moi, c'est ça qui me gonfle. C'est souvent. Les chats où il n'y a que du gazon, ils aiment bien les chats, mais ce qu'ils aiment mieux, c'est ceux qui mettent du compost, où un jardin, il y a un peu de vie, où il y a un peu de musaraigne, où il y a un peu d'oiseaux. Et c'est ça, des fois, je suis un peu fâché parce que après, tu as tous les chats du coin, parce que chez toi, c'est sympa, quoi. Voilà. C'est pour ça que des fois je suis un peu râleur sur le chat.
T'es un peu chafouin. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, chafouin, ça veut dire, ça veut pas dire ça.
Pas du tout, ça veut pas du tout dire ça.
Oui, oui, on va le rappeler.
On est plus près du foin que du chat. Mais le truc, c'est que mais pour la meilleure solution, c'est les petits arceaux qu'on peut mettre dans le sol ou attacher des morceaux de par exemple, l'épine noire, ce qu'on appelle traditionnellement le prunelier, où il y a un peu de pointe, ou les piracantas, les défensises, voilà. Tout ça, dès que vous avez des tailles, et si vous avez des endroits où il y a des semis un peu compliqués, ou même quand vous repiquez des salades, j'ai repiqué 16 salades, j'avais la moitié qui avait été grattée par les chats, avec la petite crotte qui va à côté. Donc c'est bien, mais comme dit, les petits arceaux, c'est quand même le plus efficace quand il y a des pointes.
Bon, voilà Nathalie, bon courage en tout cas.
Passer
à la branche, mais à la branche équipée d'épines.
Ouais, c'est ça. Ça tue pas du tout les chats. Hein. Ils ont bien remarqué que c'est pas l'endroit le plus sympa. Mais voilà, je sais que ça, c'est quand même une problématique. Hein. Surtout sur les légumes primeurs.
Bien. Michel qui nous dit on s'aime fort. Question à propos de semis sur couche chaude. J'ai semé mes premières tomates en utilisant le press-mod conseillé dans votre livre et commandé chez vous. Merci Michel. Très content de cette méthode. Je viens de repiquer des petits plants à 4 feuilles dans des pots en plastique. Mais toujours dans le salon. J'ai lu quelque part la possibilité de déplacer pour quelques semaines ces pots à l'extérieur sur couche chaude.
Oui.
Mais pour cela, creuser une petite tranchée de 30 cm remplie de fumier de cheval frais, couverte de BRF et d'un peu de terre. Poser les pots dessus et couvrir d'un tunnel semi-perméable.
Alors, j'ai des CV à domicile, ça j'ai pas compris pour le coup, mais un maraîcher professionnel m'a fait part d'un risque d'asphyxie par dégagement de méthane. Mmh. Qu'en pensez-vous ?
Bah, le problème, c'est que souvent, quand le tunnel est trop petit, c'est même trop chaud, quoi.
Oui.
Bon, c'est ça le but du jeu, donc il faut faire un tunnel un peu plus haut que possible, enfin un mini-tunnel le plus haut possible, et surtout aérer sur les côtés, quoi. Voilà.
Donc, oui, mais il faut vraiment être à côté ?
Non, c'est pas ça, mais faut mieux les. De toute façon, il faudra sûrement les rentrer des fois la nuit, ça peut arriver hein, quand il fait vraiment trop froid, hein, parce qu'il y a un trop fort différentiel entre le bas et le haut. Mais souvent, ce qui se passe, c'est le manque de hauteur du tunnel qui va faire qu'il y a un coup de chaleur. Et voilà. Alors, quand on dit des fois du fumier de cheval, mais ça peut être du fumier de cheval qui n'est pas forcément frais à 100%.
Ouais, mais s'il n'est pas frais, il ne chauffe pas, Eric, si ?
Bah,
ou au contraire, ça suffit finalement.
Ça suffit, ou de mettre une belle épaisseur dessus pour pas que ça chauffe de trop, quoi. Alors, je sais, c'est toujours délicat entre la sortie et pas la sortie, parce que si on en sort trop tard, le gros problème, c'est que les tomates ont filé et sont pas solides. Si on les sort trop tôt, ils ont du mal à pousser. Voilà. Hein. C'est pour ça que souvent, ce qu'il y a, c'est que si vous avez une serre adossée le long d'un mur, des fois, c'est bien suffisant une fois qu'il commence à bien grandir.
Et puis tiens, j'ai vu, j'ai un ami toujours le même, Joe, qui est maraîcher, qui a équipé sa serre de réchauffeurs, mais de réchauffeurs, tu sais, en fait, c'est des espèces de gros boudins noirs remplis de flotte qui du coup accumulent en pleine journée la chaleur et la restitue la nuit. Ça évite juste que ça gèle et que ça descende trop. Il en année deux là, il est plutôt satisfait du système.
Oui.
Alors sans aller là-dessus. Des bidons noirs, Eric ?
Il y en a qui le font, par exemple, avec des cerceaux à des endroits bien comme un système de radiateur. Quoi.
C'est vrai.
Donc, l'eau chaude va circuler et ça va éviter que ça fasse trop froid. Mais il ne faut pas oublier il faut bien attendre que les pieds de tomates, les plantules
soient bien pris. Quoi.
Bien pris, parce que sinon, ce n'est pas assez pour les lever. Et après, on risque un coup de froid. Mais pour ça, souvent, on les fait un peu trop tôt. Hein, quand on voit les températures qu'ils font après... Au mois de mars, ça va aussi vite. Hein. Ceux qui vont semer en ce moment vont aller aussi vite. Hein.
En tout cas, d'où encore une fois un énorme avantage de se dire là, on n'est pas forcément ramasse.
Voilà, c'est ça. Et quand on fait un mini tunnel, il faut plutôt faire, au lieu de le faire à plat, pour qu'il soit le plus large possible, il faut le faire le moins large possible, mais le plus haut.
D'accord.
Comme ça, ça permet d'avoir le plastique ne soit pas à proximité du pied de tomate. Quoi. Ça permet de laisser et surtout de laisser passer l'air.
Bien. Voilà, Michel, en tout cas. Rudy des Hauts-de-France. Bonjour, chers compagnons du vendredi. Cette semaine, j'aurais aimé vous poser deux questions qui changent un peu des cas pratiques. Pourriez-vous nous expliquer l'intérêt d'une semence bio par rapport à une semence classique ? Le risque d'avoir des résidus de pesticides ou autres substances non désirées sur l'un des fruits ou légumes issus d'une graine conventionnelle, mais cultivée bio, peut paraître extrêmement faible, voire inexistante. En tout cas, j'arrive pas à me représenter quelle quantité peut être transmise de la graine au végétal. Vous avez peut-être des chiffres ou des références à nous partager ?
Moi, je n'ai pas de chiffres ni de références. Par contre, il faut savoir que les graines bio, ils sont issues de plantes cultivées en agriculture biologique. Préservé les milieux où ils ont été cultivés. Voilà.
Alors attends, pause juste avant de redonner la parole, pardon, et on salue mon chat qui veut sortir, mais c'est ça la vie de jardin. Et elle te salue, Eric.
Salut, chat.
J'imagine, nous dit Rudy, que c'est un sujet un peu délicat à traiter car vous vendez que du bio sur la boutique, mais je sais que vous serez objectif dans votre réponse.
Oui, complètement. Voilà.
Vas-y, justement.
Oui, complètement. C'est-à-dire que tout ce qui va être acheté en graines bio, ou les plants bio, quand je dis les plants, ça va être les choux, même les arbustes. Ça veut dire qu'ils ont été créés dans un milieu qui répond aux caractéristiques d'une agriculture biologique. Donc le milieu est préservé. Et quand je dis des fois, c'est pas simplement le pesticide, mais c'est aussi l'engrais de synthèse.
C'est ça.
Il faut savoir qu'on met beaucoup d'engrais de synthèse dans les pépinières pour que ça booste, tout simplement.
Bien sûr.
Parce qu'il faut pas croire, mais c'est hyper efficace de mettre des engrais de synthèse. Ça booste terriblement. Après, la durabilité, sur les premiers plans, les gens, surtout, qui recherchent des plants qui soient les plus gros possibles. Donc là-dessus. Alors, après, les résidus de pesticides sur les graines, il peut y en avoir, parce que moi, je me suis fait avoir, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est d'acheter des graines qui sont traitées.
Sur les graines.
C'est-à-dire que quand vous avez une graine bleue, violette, rouge,
oui, c'est ça, oui. Comme dans le milieu agricole. Voilà, quoi,
c'est-à-dire c'est des graines qui sont pré-traitées. Là, c'est sûr, ça peut arriver des fois quand vous allez chercher des graines plutôt étrangères ou à l'étranger. Hein, je suis à l'étranger et je vais récupérer des variétés de choux, de courges que je n'ai pas chez moi en France. Et des fois, quand vous aurez le paquet, les graines sont bleues, violettes, fuchsia. Voilà. Donc ça, complètement non, parce qu'on va mettre un pesticide dans son milieu, quoi. Enfin, ça ne va pas. Mais l'obtention des graines, c'est pas si grave que ça, quoi.
La graine non traitée, effectivement, le risque qui est dans la semence des pesticides est extrêmement faible. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est le process de culture qui est là qu'on pointe et qui est différenciant. Donc c'est vraiment en amont.
Oui, c'est ça.
Et pour les gens qui les cultivent et pour l'environnement, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Par contre, Rudy nous pose une deuxième question. Connaîtriez-vous un site ou un livre qui croise le calendrier lunaire et les zones géographiques pour cultiver les légumes ? J'ai pas réussi à trouver de documents qui combinent les deux. Souvent, les calendriers lunaires donnent des dates et même des heures précises pour chaque légume, sans donner la région de référence.
Oui.
Tout au plus, il précise si le commentaire s'implique à un climat doux, à tous les climats. Habitant dans le nord, je sais qu'il peut y avoir de gros écarts avec la moyenne. Mon objectif est de planifier les jours de jardinage importants à l'avance et peut-être, pour éviter d'entendre Eric le vendredi en disant « cette semaine, on semaine les petits pois à fond alors que je ne serai pas chez moi ». L'an dernier, j'avais fait le travail à la main, légumes par légumes, mais c'est fastidieux. Merci à tous les deux pour votre travail fantastique. Rudy des Hauts-de-France. J'aurais dit Rustica qui a quand même des zones.
Oui,
alors,
des zones.
C'est pas aussi.
Il y a les quatre saisons du jardinage qui proposent par zone aussi, par grande zone. Donc là, notamment, il y a un calendrier qui propose tous les ans les quatre saisons du jardinage. Ça, c'est pratique. Hein.
Ouais.
Voilà, vous avez quand même entre le rustique et les quatre saisons, il y a quand même des possibilités. Alors, bien sûr, on ne vous dit pas zone par zone à quelle date il faut faire. C'est marqué plus 4 jours, 5 jours, et ainsi de suite.
Bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est important. Plus, il y a la hauteur à prendre en compte. Donc,
l'altitude, tu veux
l'altitude,
dire. Dans les Hauts-de-France, a priori,
ça devrait aller. Je reviens un peu sur le point qu'on a vu auparavant. C'est par exemple sur les plantes à repiquer. Là, c'est bien différent parce qu'il y a quand même des résidus de pesticides sur les choux, sur les choses comme ça. Quoi.
Bien sûr.
C'est vrai, ce n'est pas des grosses quantités, on est d'accord. Mais si on veut jouer le jeu jusqu'au bout, moi, ça m'arrive d'acheter des plants n'importe où, même s'ils ne sont pas forcément bio. C'est vrai, parce que moi, je fais toujours ça quand je fais une animation. Il y a un producteur qui vend à côté, qui soit conventionnel ou autre. Voilà, je vais quand même aller voir ces produits, comment ils sont. Et pour jouer la proximité, jouer le partenariat. Ça m'arrive d'acheter quelques choux ici et là, quelques pieds de salade. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un peu différent parce que les plants de salade ou les choux, après, quand ils ont quand même.
Tu le vois d'ailleurs, Eric.
Ça se voit. Il y a des
tu le vois, voilà.
Ça se voit. Ça, quand il y a beaucoup de ça, alors, des fois, il faut faire attention. C'est pas parce que vous voyez du blanc sur les choux que c'est traité. Hein. C'est simplement, il y a peut-être une substance qui a été mise, qui évite justement d'avoir des problèmes. Je croyais que c'était Brice qui faisait des miaulements.
Je ne miaule pas. Non, je me suis dit.
Je sais que je suis assez excitant, mais quand même. Mais voilà. Donc le truc, c'est que là aussi, il y a un choix à faire. Voilà. Mais que ça soit sur les plantations de petits fruits, les petits fruits, parce que vous n'allez pas les manger tout de suite, fruits. Je veux dire, après, le risque est complètement minime. Mais c'est surtout sur l'obtention et la création du produit végétal.
On est d'accord. Point 2 pour notre ami Rudy. Les 4 saisons, où tu disais, visiblement, je ne sais pas si Rudy, dites-nous si vous avez regardé un petit peu. Tu as d'autres idées, sinon ?
Il existe des fois, tous les ans, on peut acheter carrément un livre sur...
Ouais, mais qui ne prend pas en compte les zones. Enfin,
non, ça ne prend pas les zones. Si. Les 4 saisons, et Rustica, oui.
Bon. Eric,
c'est moi.
Bonjour à vous deux, nous dit Julie. Je vous ai pas écrit, je vous ai jamais écrit, pourtant je vous écoute religieusement depuis plusieurs années, mais merci à tous les deux, pardon, pour votre partage de connaissances détendues. Grâce à vous, Xavier Mathias, Bernard Bertrand et Damien Decars, mon jardin est luxuriant et productif, champêtre à souhait, n'en déplaise aux voisins. Comme dirait Eric.
Bernard Bertrand, c'est déjà.
C'est déjà du. C'est déjà du lourd. Ouais. J'ai hâte de recevoir votre livre et de l'offrir au jardinier de ma famille. Écoutez, n'hésitez pas, on en a. Alors, ce qui vous fait vous écrire, c'est qu'il y a eu un bug au montage des podcasts depuis plusieurs semaines. J'ai cru à des hallucinations auditives et j'étais prête à accepter ma folie. Mais au dernier podcast, j'ai pas eu de doute, ça vient pas de mes psychoses. Je vous invite à écouter. Alors, elle nous a donné, effectivement, je l'ai fait. Il y a d'autres sons parasites dans le podcast précédent, mais celui-ci est bien audible. J'écoute dans la voiture. une de plus. Alors effectivement, j'ai réécouté la séquence, Julie. Il y a des espèces de voix. Bon, voilà, c'est le traitement derrière, puisque ça fait quelques semaines là qu'on essaie d'augmenter, notamment on enregistre, enfin moi en ce qui concerne, j'enregistre non pas dans une cathédrale, mais dans le bureau, et il se trouve que ça résonne un peu, et pour la qualité sonore, il m'a été fortement conseillé de passer ça aujourd'hui dans des outils, avec de l'IA, et il se trouve juste que oui, on entend un peu des voix, donc tout va bien, Julie, c'est juste que, alors on va essayer de régler pour éviter qu'il y ait des voix, bien. Deux questions concernant les cloportes. Oui. Je sais qu'ils sont au top, mais ils sont clairement en sureffectif chez moi et ils attaquent mes fruits. Fraises, framboises, légumes. Une fraise sur deux est mangée par mes amis. Quand j'en cueille, plusieurs cloportes peuvent s'enfuir sur une seule fraise.
Ouais.
J'en trouve des milliers partout dans le jardin et aussi dans la maison, bien isolée, sans fuite d'eau a priori. Je paille avec des feuilles mortes, du BRF, du fumier de cheval depuis au moins 7-8 ans dans toutes les zones potagères, 40 mètres carrés. Trois bandes de 27 mètres de long, plus une haie de petits fruits. Donc, ça a dû bien les aider à en proliférer. N'en parlons
bien
pas, les limaces et les escargots. Que faire? Il ne semble pas avoir assez de prédateurs et pourtant, on fait tout pour. Des nichoirs, des tontes longues, deux à trois fois par an, pas plus. Une petite mare, un tas de bois, etc. Le climat est humide puisqu'on est en Normandie, à bord de mer, une terre sablonneuse, hein, bien amendée depuis des années. Donc, on a l'impression et on a l'impression de jardiner dans du terreau. Et les cloportes, ils sont pour quelque chose, mais à part quelques voisins en pavillon, notre environnement est fait de petits champs non exploités et de haies bocagères. Qu'est-ce que je fais quand j'ai trop de cloportes? Et est-ce que finalement ça attaque? Oui, nous dit Julie.
Oui, ça attaque, surtout quand il y a des pré-trous avant qui ont été faits par d'autres bestioles, hein. C'est un peu comme les perce-oreilles ou pince-oreilles, hein. C'est pas forcément ceux-là qui attaquent, parce que c'est des bestioles qui sont super intéressantes, parce que par exemple le perce-oreille, c'est des antipucerons.
Oui.
Mais il faut savoir, ce qui est important, c'est que quand il n'y a pas assez à manger, ils vont attaquer n'importe quoi. Voilà. Alors l'intérêt aussi, c'est que quand on a beaucoup de cloportes, c'est surtout de mettre moins de déchets organiques grossiers, hein, type du broyat, du BRF. Peut-être que le sol est déjà assez saturé, c'est peut-être assez suffisant. Et peut-être mettre ce déchet-là plutôt en compostage, de manière à avoir un compost où là, il y a quand même beaucoup moins de cloportes, parce que les déchets sont déjà décomposés. Peut-être diminuer, moi je diminuerais la quantité de déchets organiques sur le sol. Grossier
trop.
Et ligneux. Voilà.
Tu sais bien meubler, je suis allé ouvrir au chat du coup.
Ouais,
bien. Donc, j'ai pas du tout pu entendre ta réponse, mais je suis sûr que.
Non, mais le principe, c'est que des fois, il y a beaucoup de matière organique, comme dans un compostier, hein. Quand vous ouvrez le compostier et vous avez plein de cloportes, c'est qu'il y a trop de matière végétale grossière, donc fibreuse, par rapport aux déchets, les biodéchets qui sont beaucoup plus simples et humides et azotés. Voilà.
Oui.
Moi, je limiterai un peu la quantité de feuilles, parce que peut-être il y en a bien suffisant. Des fois, entre mettre beaucoup et beaucoup, il y a beaucoup. Donc il suffit peut-être de diminuer un peu ça, et je suis persuadé que ça ira mieux, complètement. C'est un peu comme il y a beaucoup d'insectes, c'est plutôt la quantité des fois d'insectes, même s'il est utile, qui fait des fois la problématique. Mais là, pour moi, je diminuerais la quantité de matière organique grossière.
J'ai une zone de pelouse envahie d'orties qui arrive vers la zone de jeu des enfants. Elles sont en partie d'un ancien poulailler à proximité. Je désherbe manuellement.
Oui, parce que dans les orties, en principe, autour du poulailler, il y a des orties. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'azote.
Il y a beaucoup d'azote, c'est ça. Ouais. Donc, j'essaie de les enlever les longues racines traçantes. Je sème ensuite du gazon sur la terre battue en espérant qu'elles ne reviennent pas. Est-ce qu'il y a une technique plus rapide pour le désherbage manuel et les produits chimiques pour s'en débarrasser que
non.
Le pardon. Est-ce qu'il y a une
non.
technique plus rapide que le désherbage manuel et que les produits chimiques, évidemment?
Oui, non, pas du tout.
Chronophage, hein. Déraciner tout ça et mon dos remerciera.
Non, parce que complètement, l'ortie est présente pour limiter l'excès d'azote.
Donc, c'est un aspirateur à surplus
d'azote. C'est comme dans les terrains, agricoles, où il y a beaucoup d'amarantes et de chénopodes. C'est pour justement... S'opposer. Alors, c'est pas la plante qui va s'opposer, parce que j'ai l'impression de montrer qu'une plante a une âme et compagnie. C'est simplement pour s'opposer à un sol qui est tassé et beaucoup plus riche en azote minéral. Voilà. Quand il y a beaucoup de déchets, c'est pareil chez moi. En plus, comme il pleut beaucoup en ce moment, il y a des endroits où j'ai plein d'orties parce que j'ai mis des excès de matière organique en décomposition. Mais là, ça me semble compliqué. La seule possibilité des fois de pouvoir mettre à proximité du poulailler, c'est mettre des arbrisseaux, des arbustes. Des arbrisseaux, comme ça c'est un peu moins haut. Comme ça permet de pomper un peu d'azote. Quoi. Voilà, Julie. Ça fait un peu de fraîcheur pour le poulailler aussi.
Voilà, Julie, en tout cas, merci.
Il n'y a pas d'autre solution, hein. C'est une richesse d'avoir ça. Alors, je sais que c'est peut-être embêtant pour les gamins, mais voilà. Mais ils vont grandir, les gamins, donc...
Oui, donc ça sera pas. Et puis non, après, on se pique une fois, ça devrait aller. On va parler d'amandier avec Marie qui nous dit bonjour la Dream Team. J'aurais besoin de vos conseils pour mon amandier. Je l'ai planté à l'automne dernier. Il y a une belle floraison, mais comme vous pouvez le voir sur les photos, les feuilles ont complètement fané. J'ai l'impression qu'il est en train de dépérir. Oui. Qu'en pensez-vous? Dois-je m'inquiéter? J'ai l'impression que c'est un coup de gel.
Oui, alors ça peut être un coup de gel ou alors si c'est un coup de gel, bah c'est pas de chance, voilà. Mais c'est pas plus grave que ça. Ça va repousser. Par contre, j'ai un peu l'impression que c'est un problème plutôt de vaisseau du bois qui se bouche, parce que sur l'amandier, comme le cerisier, mais surtout l'abricotier, voilà, le prunier, ben les canaux du bois se bouchent, hein, tout simplement suite à un champignon, et ça fait crever l'arbre.
Bon, voilà. Mais c'est quoi? C'est une maladie?
Oui, c'est une maladie. Alors, si c'est un coup de gel, bah, c'est embêtant parce qu'on n'aura pas de fruits.
Ouais.
Mais c'est pas grave, ça va redémarrer. Par contre, si c'est l'eau, ça m'embête. Alors, dès que si vous voyez que les rameaux dessèchent et les bourgeons qui ont été séchés ne sont pas renouvelés, c'est sûrement un problème micro de champignons. Donc, c'est une maladie qui va se propager dans l'arbre. Donc, autant que possible, enlever toutes les parties sèches.
Ok. Et ça va, il va revenir normalement?
Alors, oui et non. Si vous voyez par exemple qu'il y a des grandes pousses qui repartent du bas en dessous des branches qu'ils ont séchées, on peut revenir là-dessus, quoi. Mais okay. C'est quand même mal barré. Quoi. C'est pour ça qu'il faut enlever tout de suite la problématique en coupant le maximum pour limiter les attaques cryptogamiques, hein, donc des champignons. Mais pour l'instant, moi j'attendrai parce que peut-être que c'est un coup de gel.
Le deuxième patient est un sapin dont les aiguilles commencent à brunir. Elle nous a joint une photo.
Oui.
Marie.
On en a plein.
Il y a du lichen. C'est rouge.
Oui. Hein, alors il y en a plein en ce moment des conifères qui brunissent malgré l'humidité. Et, alors il faut savoir que quand un conifère, aiguille, qui ont pris un coup de chaud, même de sécheresse, de canicule pendant l'été, c'est pas suite à cet été qu'on va voir l'automne que l'arbre en a pris un bon coup, c'est à l'automne.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'on voit souvent des conifères au printemps, malgré que l'hiver a été humide, sympa et compagnie, ils brunissent tout simplement parce que c'est à la reprise de la végétation qu'on remarque si l'effet des deux étés précédents, hein, de 2023 et 2022, ont peut-être eu une influence. Donc, c'est facile sur le sapin. Autant que possible, il faut supprimer toutes les branches qui commencent à brunir. Faire une couleur un peu plus pâle, un peu plus marron.
Pour le contexte, justement, chez Marie, elle habite dans la Vienne, terrain argilo-calcaire. Avec les dernières pluies, le terrain est souvent à blanc d'eau, hein, à certains endroits. Je soupçonne donc ce surplus d'humidité comme responsable.
Oh, je ne suis pas sûr.
Pas sûr, hein, on est d'accord.
À moins que vraiment que ça soit, que ça soit dans un marécage, quoi. Hein. Mmh. Là, ok, parce qu'il y a asphyxie radiculaire. Donc là, ça pose
problème. C'est là où je veux l'en venir.
C'est pour ça que des fois, ça peut être de toute façon... Le manque d'eau ou l'asphyxie radiculaire fait la même chose, sauf sur des plantes qui ont l'habitude.
Aurélien, qui nous dit bonjour, cher podcasteur. Tout d'abord, je voulais vous dire que vous faites un super travail avec votre podcast sur tout l'univers du jardinage. Je suis en train d'écouter tous vos podcasts depuis le début, l'ayant découvert depuis décembre. J'arrive sur fin avril 2022, j'en suis bientôt au bout. Non, parce que je crois que c'était juste avant le Covid, 2020. Donc, bon courage, Aurélien. En tout cas, j'apprends tous les jours de super techniques avec vous. Merci beaucoup, Aurélien. Maintenant, vous avez fait de beaux compliments. J'ai une question pour deux pommiers présents sur ma parcelle. J'habite dans les Landes, maison achetée depuis 3 ans. Je fais une taille des branches sans connaître la façon de tailler il y a 1 an et demi. Et pour information, je n'ai pas encore goûté les pommes qu'il donne. Alors, il nous a envoyé des photos, deux photos de pommiers, très touffus.
Très touffus, parce que là, ils font du bois. C'est plutôt des troènes que des pommiers.
Ouais.
Donc, voilà.
Alors, sur ce premier pommier, il est situé sous un lampadaire. Je vois bien les nouvelles pousses. Donc, je pense qu'il faut que je fasse une coupe en hauteur. Mais pour les autres branches, je ne sais pas trop. Je ne vois pas de charpentière et beaucoup de branches au milieu. Je ne cherche pas forcément à avoir des fruits cette saison, mais à refaire partir le pommier sur une bonne dynamique.
Ouais.
Et pareil sur le deuxième pommier. Alors là,
silence radio, parce qu'il y a du boulot, quoi. C'est-à-dire que le pommier a été taillé comme un troène, c'est-à-dire de trop. Donc il a fait plein de micro-branches. Pour l'instant, on lui fait comprendre qu'il faut surtout qu'il fleurisse. Et qu'il ne fasse pas surtout de fruits, mais qu'il fasse des feuilles. Il risque même d'avoir des maladies type oïdium et mildiou. Voilà, ou tavelure. Voilà, hein, donc, oïdium et tavelure, c'est ce qui est le plus important. Voire puceron. Au niveau des ravageurs. Souvent, quand on a des situations comme ça, je dis souvent aux gens, arrêtez de tailler. Laissez évoluer les branches. Par contre, il y aura un travail de fond de nettoyage pour simplifier un peu l'ensemble, pour éviter qu'il soit trop touffu. Pardon.
Donc au final,
ce que je propose, c'est que je vais récupérer les deux photos.
Ouais.
Et je vais les étudier un peu plus fortement et envoyer
directement à Aurélien.
C'est ça.
Bon, ben voilà Aurélien, vous avez une consultation gratuite.
Parce que là,
vous avez une consultation gratuite.
C'est pour ça que je m'en étouffe tellement que je me suis pris de branche. Tellement qu'il y en a.
Je vois ça. Ouais. Bon, bah Aurélien, Eric va vous répondre directement.
C'est plus simple. Parce que le problème, c'est que il va falloir couper pas mal de branches.
Ouais.
Et surtout ne plus rien faire après.
On va terminer avec Elodie et ses kiwis. Bonjour à tous les deux pour votre super podcast. Ça fait quelques semaines que je vous écoute. Et cette semaine, je me suis dit, allez-vous, à mon tour de poser une question. Alors, j'ai trouvé l'année dernière un kiwi, en promo à un mâle et trois femelles dans un pot. J'avais essayé un pied auto-fertile l'année d'avant au même endroit, mais ça n'avait pas fonctionné. Alors, je l'ai planté il y a un an. Et depuis un an, les kiwis végètent. J'ai l'impression que deux des quatre pieds repartent. Mais je me pose la question, est-ce que ça va aller cette année? Je les ai placés contre un mur de la maison, sous une terrasse. Côté ouest, peut-être qu'ils n'ont pas assez de soleil, car juste à quelques mètres côté ouest, il y a un grand et vieux pommier. 700 mètres d'altitude. Hein,
c'est le 700 mètres. Vosgien. Ça, le 700 mètres, ça fait mal un peu quand même.
Voilà, bah voilà. Que me conseillez-vous? Les déplacer, leur donner plus à manger, attendre en criant kiwi pour qu'elles reviennent, laisser tomber parce que les kiwis, c'est jamais bien à cette altitude. Merci pour vos précieux conseils que j'écoute avec attention chaque semaine. Amicalement, signé Elodie. Bah merci. Eric a donné une réponse assez.
Oui, c'est que dire le bon, c'est bon. Alors, s'il est bien exposé et s'il est long d'un mur, ça devrait pas poser de problème. Mais il faut. Bah, y a un truc qu'il faut savoir, c'est que des fois, ça a du mal à démarrer.
Voilà. D'accord. Mais une fois que c'est parti, c'est parti.
Une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Le truc, c'est peut-être de bien vérifier qu'il n'y ait pas trop d'eau qui tombe dessus. Aussi.
D'accord.
Parce que des fois, c'est bien de mettre le long de mur, mais il peut y avoir une fuite de gouttière et compagnie, ça, il n'aime pas. Donc voilà. Moi, je mettrais un peu plus de déchets organiques au pied, ou des déchets un peu grossiers, pour qu'ils se retrouvent dans son environnement, je dirais, un peu en tant que strate verticale. Et puis, c'est vrai qu'il n'est pas vigoureux, mais ça peut pousser d'un seul coup, il faut qu'il s'installe bien au niveau des racines. Mais peut-être qu'il a subi peut-être le froid à un moment à la plantation, pas forcément cette année. Mais voilà, c'est laissons-lui une chance, je dirais. Ça, c'est important. Bon, surtout s'il y en a un auto-fertile et deux autres, ça devrait quand même pousser. Mais cette année, ça va être très important pour savoir dans quelle situation il est. Donc moi, je remettrais beaucoup de paille au pied, les déchets, parce que ça, on dit souvent que les arbres, il ne faut pas les pailler, mais là, c'est une strate verticale. Donc ça veut dire qu'il va pousser, il va se servir en principe d'une plante, d'un arbre pour pouvoir pousser. Et dans son environnement, il a quand même pas mal de déchets. Donc, mettons beaucoup de déchets et vous verrez ça après.
Bon, donc, pailler, pailler, pailler avec du
paillage. Ouais, voilà. Alors, bien vérifier qu'il n'y a pas un excès d'eau au pied quand même.
Bon. Mais c'est possible si c'est bien exposé.
Voilà, il faut que ça soit bien exposé. C'est-à-dire,
parce que le coup du vieux pommier là qui fait de l'ombre ou peut-être porté, c'est pas top.
C'est pas top, top. Voilà. Alors, c'est bien, mais pas à 700 mètres.
Bon. Voilà, en tout cas, vous qui nous écoutez, contact@monjardinbio.com pour nous envoyer vos questions. Florent, Caroline et Olivier, rendez-vous la semaine prochaine. Désolé, on ne peut pas non plus répondre à toutes les questions, mais elles seront traitées évidemment la semaine prochaine.
Ouais.
Merci à tous de nous avoir posé des questions. On va passer bien sûr au dossier de la semaine consacré aux fraises des bois, où tu nous proposes de les semer, Eric.
Oui, tout à fait, parce que... pourquoi je réponds à, enfin, je propose ce sujet, c'est que aujourd'hui on vous propose des paquets de graines de tout.
Oui.
Voilà, plein de tout. Et donc c'est pour ça que les fraisiers, on peut être tenté. Alors, comme dit, ce sont pas les fraises traditionnelles qu'on va acheter en barquette. Là, on est plutôt dans la petite fraise dite des bois. Alors, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'une graine de fraisier. Alors, la graine de fraisier, alors le fruit du fraisier, en réalité, c'est pas ce qu'on mange, la grosse partie qui peut être rouge, mais jusqu'à blanche ou jaune, en fonction des types des. Les variétés de fraisier. Le fruit du fraisier, c'est la petite graine qu'on dit sur le qu'on appelle les akènes, qui sont sur la fraise. Ça, c'est ça le fruit.
D'accord.
Et dans ce fruit, dans cet akène qui peut paraître tout petit, les grains qu'on a sur la fraise, la graine est dans ce fruit. Est-ce que tu me suis, Brice?
Oui, je suis. C'est les petites. On imagine.
Menteur. En fait, menteur, je trouvais l'œil un peu.
On ne mange. Oui, mais parce que pendant qu'on enregistre, tu sais très bien qu'il y a plein de trucs à gérer en même temps.
Non, parce qu'on
ne mange pas le fruit.
Voilà. Le fruit, c'est le fruit du fraisier. En réalité, c'est la graine qui est dessus. C'est le petit akène qui est dessus. En réalité, l'akène, c'est le fruit. Et dans cet akène, il y a la graine. Donc, pour vous dire que c'est un.
C'est microscopique. C'est
microscopique. Hein. Ouais. Donc c'est super important de l'identifier parce que pour après, pour avoir le semis. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser une jardinière. Alors pourquoi on précise une jardinière et pas un godet ? La jardinière, c'est intéressant parce que c'est assez grand et assez haut. Voilà, c'est ça le but du jeu parce qu'il y a la profondeur. Donc le but du jeu, il faut toujours mettre un fond de quelque chose. Donc, ça peut être du sable, ça peut être du gravier. 1 ou 2 cm, et puis après on va rajouter du terreau de semis dessus. Parce que plus la graine est fine, plus il faut avoir un terreau qui est fin. Alors si vous avez un terreau qui est un peu grossier, je vous invite à le tamiser, mettre la partie grossière plutôt au fond où il y a le sable, et la partie la plus fine que vous avez tamisée, je veux dire au-dessus. Pour que quand vous allez mettre votre terreau dessus, vous allez tapoter avec une petite planchette en bois, et ensuite vous allez semer un petit mélange de graines de fraisier avec un petit peu de sable de manière à avoir un peu la répartition. Alors bien sûr, il ne faut pas mettre un seau de sable pour un paquet de graines. Le principe, c'est que si déjà vous mettez un demi-yaourt de sable en mélange avec les graines pour le semer, c'est déjà parfait. Le fait d'avoir apporté un peu de sable avec les graines, ça va mettre un peu de substrat. Alors, vous mettez les graines de nouveau bien séparées. En réalité, vous séparez le sable. C'est plutôt ça que vous voyez, globalement. Et vous pouvez le couvrir d'une très, 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 très fine couche de terreau de semis, vraiment très, très fin, ou pas. Le ou pas, je dirais, des fois, est mieux que de remettre de trop dessus. Et après, vous retapotez de nouveau avec la petite règle. Vous humidifiez vraiment avec un pulvérisateur. Et comme c'est beaucoup de plantes, il faut après... ce type, on couvre avec un plastique transparent et vous faites. Il y a des choses qui sont assez intéressantes. Vous pouvez acheter, soit vous récupérez un vieux tendeur ou soit vous récupérez des tendeurs qu'on achète au mètre ou en rouleau. Voilà. Et des fois, ça c'est pratique, des fois pour simplement couvrir un bac, par exemple, un bac carré qui fait 1m20 sur 1m20. Comme ça, vous utilisez le tendeur. Ou pour une petite jardinière, comme ça, vous utilisez un micro-tendeur. Vous mettez le plastique dessus, transparent. Et là, souvent, ça suffit. C'est assez suffisant pour maintenir l'humidité.
Eric, il y a une question toute bête qui va se poser. C'est quoi l'avantage de les semer, finalement? On voit aujourd'hui les plantes fraisiers très facilement. On peut en acheter un peu partout.
Alors, par exemple, il faut savoir que, par exemple, les graines remontent, enfin les fraisiers remontants, plutôt de 4 saisons, fraises des bois, voilà la reine des vallées par exemple, un pied ça coûte à peu près aujourd'hui entre 2€ et 3€.
Voilà. Mm-hmm. C'est économique, voilà.
C'est purement économique parce que une fois qu'on a fait ça, ça permet de dire on en a fait vraiment une grosse quantité. Et après, c'est le côté aussi plaisant parce qu'on propose tellement de types de graines différents, de plantes qu'on imagine même pas de semer, quoi. Que des fois, on a envie, mais il faut le faire de bonne façon, parce que sinon, votre paquet de graines qui coûte très cher, par contre, parce qu'il y a peu de graines dedans et c'est des trucs très spécifiques, c'est pour l'optimiser. Et toutes les indications que je vous donne là pour des micro-graines, c'est valable pour les micro-graines de toutes les plantes, aussi bien pour des plantes à fleurs que pour des plantes légumiers. Voilà. D'abord, on avait donné à peu près les mêmes conseils pour les poireaux, par exemple.
Question toute simple, je sème là maintenant à partir du mois d'avril sous abri, comme tu viens de le dire au début de ce dossier. Concrètement, je vais repiquer quand est-ce que j'aurai une récolte l'année prochaine, Eric?
Il faut savoir que... Ah oui, bien sûr. Il faut savoir que ça va germer dans les 2-4 semaines, donc on peut encore en semer très prochainement, il n'y a pas de souci. Et une fois que les plantes ont deux feuilles, et ben il faut les repiquer dans des godets remplis de terreau.
Alors, question, les professionnels reproduisent en semant ou ils font du stolon ?
Alors là, c'est pour ça, il y a au moins deux possibilités. C'est soit on fait ce qu'on appelle une reproduction asexuée en utilisant le stolon. Voilà, c'est pratique. Ouais. On peut même, des fois, sur certains pieds, les diviser pour certaines variétés. Et des fois, on fait du semi. Mais souvent, le professionnel va utiliser aussi le stolon. C'est plus facile.
Le stolon, c'est plus facile.
Parce que, alors, la fraise des bois, il faut savoir que c'est une race pure. Donc, la floraison qui va avoir lieu va donner les individus qui sont à peu près pareils. Donc, des fois, ça peut être intéressant. Et puis, c'est quand on a repiqué que pose le problème. C'est que les godets, il va falloir les maintenir pendant tout l'été à l'humidité.
Ouais.
Et c'est souvent là que tout l'effort qu'on a fait au printemps, jusqu'au mois de mai, début juin, va être perdu parce qu'on aura repiqué dans des godets, on les aura oubliés.
Bien sûr.
Donc là, il faut faire attention.
Eric, autre question, bien sûr, qui tourne sous le sens. On repique là, dans les prochains mois qui viennent.
Ouais.
On récolte en 2025.
C'est ça.
Avec, de nouveau, 3 ans. Une question. Tu nous dis, des fois, pour semer des tomates, on récupère une rondelle de tomates, on la met sur un sopalin.
Ouais.
Ça permet de... si j'ai de la fraise des bois que je prélève, que je cueille, je prends pas la plante, je cueille le fruit.
Ouais.
Alors, on a bien compris que le fruit, pardon, la partie charnue, dans lequel est contenu le vrai fruit, comme tu dis.
Ouais.
Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça?
Disons que c'est comme ça, des fois, parce que ceux qui ont des fraisiers des bois ont un... on en a partout. Quoi. Alors des fois, justement, c'est une reproduction qui est faite par stolon, mais aussi par semis naturels. Donc on ne les ressème pas, on fait du semis naturel.
Donc ça veut dire que si on en a à un moment, est-ce qu'on peut récupérer la chose?
Moi je dirais faut se laisser faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé ses graines, ses pieds, en principe...
ça colonise, quoi.
Ça colonise. Et des fois, une rocaille qui n'est pas forcément en plein soleil, ça peut être sympa d'avoir des fraisiers qui sont...
On peut y mettre la fraise des bois.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Alors, je rappelle bien, c'est de la fraise des bois. Hein, c'est pas les fraises qui font 5 cm de longueur.
Oui, on est d'accord. Donc, sur la fraise des bois, allons-y.
Ouais.
Ça se sème.
Ouais.
Finalement, il faut être très patient. 2 à 4 semaines, c'est quand même énorme. Voilà.
Alors, des fois, c'est pour ça, quand on parle de la fraise des bois, on parle plutôt des 4 saisons, parce que ça produit tout le temps. On peut appeler ça aussi remontant. Ça dépend, il y a des dénominations, c'est-à-dire que c'est pas la fraise qui est non remontante qui va produire qu'une seule fois. Bien sûr, en ce moment, on peut repiquer des framboisiers plutôt remontants. Des framboisiers. Enfin, aussi des framboisiers, mais des fraisiers remontants. En les mettant tous les 30-50 cm. Parce que si on achète des non remontants, c'est pas sûr qu'on ait des fraises cette année, quoi.
Bien, et sinon, il y a la possibilité aussi de les acheter directement en pot, en plan. On vous en propose comme tous les professionnels du végétal.
Voilà. Il n'est pas non plus interdit pour les particuliers de cultiver les fraisiers sous un mini tunnel.
Oui,
voilà.
Ça permet d'avancer aussi.
Mais en pleine terre.
Et en pleine terre.
Voilà.
Cher Eric, on va refermer ce dossier de la semaine, mais on va aussi tout doucement refermer cette émission, très agitée, avec un chat, un téléphone, et qu'est-ce qu'il y a encore?
Un chat dans la gorge, parce que
un chat dans la gorge,
j'ai récupéré ton chat dans ma gorge, mais
C'est ça, vu le gabarit, je ne suis pas sûr.
Ouais.
Info dicton ?
Oui, alors bien sûr, autour de la fraise, sinon c'est pas
marrant. Évidemment,
sinon c'est pas drôle. Qui choisit des fraises, usine au jardin.
La fraise. Tourneur-fraiseur.
C'est ça,
Il n'a rien à voir.
Non, le fraiseur, c'est celui qui mange des fraises, bien sûr.
C'est bien sûr. Et le fraisiculteur, c'est celui qui fait des fraises.
Ouais.
Je crois que c'est comme ça, fraisiculteur.
Sûrement.
Dites-nous.
Allez.
Mon cher Eric, 3 informations essentielles. Le livre On s'aime fort, disponible dans toutes les librairies, sur notre site, évidemment dans toutes les librairies aussi sur Internet. Vous pouvez le retrouver et puis le commenter, nous faire des photos, partager sur les réseaux sociaux, ça nous fait très plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Auparavant, rendez-vous sur Instagram, sur Facebook, où il y a de nombreux conseils à retrouver. Dans la newsletter également, tous les vendredis vers 17h. Le blog, bien sûr, Eric.
Bien sûr.
Avec tous tes précieux conseils, on va retrouver le dossier de la semaine dans le blog. Et puis, vos questions, réactions, commentaires, contact@monjardinbio.com. Eric.
Ouais.
Le mot de la fin.
Je sais pas quoi dire parce que J'ai envie de dire, voilà, attendez que le sol se ressuie, mais ça fait deux semaines en semaine que je le raconte, ça.
On va arriver au mois d'août.
C'est bon, arriver, le sol ne sera jamais ressuyé.
Oui, mais donc, bon, après, au bout d'un moment,
vraiment,
ça ne veut pas, ça veut pas.
Voilà, sur des endroits vraiment qui sont urgents, alors, prenez votre temps parce qu'on est vraiment en avance sur, le Climaland, et que simplement début avril, hein, fin mars, début avril. Donc, on a le temps de faire plein de choses, hein, je veux dire, voilà, il y a les semis, tout ça, on a le temps. Et si vous voulez vraiment protéger votre sol avec quelque chose pour éviter l'excès d'eau, mais surtout éviter de piétiner le sol, parce que le compactage du sol, c'est vraiment un ennemi.
C'est pire que tout.
C'est l'ennemi numéro un des sols, franchement.
Bon, et ben voilà, en tout cas, ça c'est dit. Merci Eric pour ce tour d'horizon de l'actu du jardin, on va dire ça comme ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut.
Salut, salut.